nous sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi.
C'est un immense privilège, un honneur, une joie d'être parmi vous ce matin. Et lorsque Pasteur Samuel a dit « on va mettre un chant pour qu'elle se sente comme à la maison », je dois vous avouer que depuis que je suis arrivée ici, je me sens comme à la maison, vraiment. Tellement comme à la maison qu'hier que nous avons prié pour le pays, pour la France, et j'étais dans un élan de prière et j'ai dit « Seigneur, bénis notre pays, la France !» Alors. Je veux juste dire à mon mari, ne t'inquiète pas, je reviens lundi quand même. C'est une prophétie. Mais c'est vrai que j'ai un amour particulier pour la France. Je viens régulièrement et à chaque fois, c'est un honneur. Mais je dois vous avouer qu'ici, on sent vraiment la présence de Dieu. Depuis vendredi, vous savez, je suis ici pour 72 heures. Ayez compassion de moi. Dans mon corps, en ce moment, il est 4 heures du matin. Hein? Alors, donne un petit coup de coude, là, dis à ton voisin ou ta voisine, t'as pas le droit de dormir, c'est elle qui peut dormir ce matin, elle est jet-lag. Et je vais essayer de vous garder réveillée, mais comme j'ai dit, on sent l'amour de Dieu dans ce lieu, on sent la présence de Dieu. Pour voyager un peu, je dois vous avouer que c'est pas dans toutes les églises qu'on voit ça. Et vous savez, une église est à l'image de son berger. Une église est à l'image de son berger. Et lorsque l'Église est en santé, on voit qu'il y a un bon berger. Et la Bible nous met en garde contre les lèvres flatteuses, mais elle dit de rendre honneur à qui honneur est dû. Et étant sur une équipe pastorale, j'aimerais que la congrégation, c'est mon privilège. Est-ce que vous pouvez apprécier votre pasteur, l'épouse, Dominique, son épouse, pasteur Samuel? Vraiment. Et je remercie toute l'équipe de femmes, Johanna, son équipe, pour la journée fantastique. Pasteur Samuel, laissez-moi voir vos mains, les femmes, vous étiez là. Est-ce qu'on peut pousser un cri de victoire, les femmes qui étaient là? Ah! Nous avons été profondément bénies. Et merci. Vous savez, les femmes m'ont vue avec des images rigolotes. Aujourd'hui, c'est mon côté un peu plus sérieux. Alors, on va parler de science et de foi. Est-ce que pour certains, la science, les mathématiques, la physique, la chimie, ça éveille quelque chose de douloureux en vous? Ah! J'ai un double défi. Ça éveille des peut-être quelque chose qui est aride à comprendre. Je vais essayer de rendre les choses le plus simplement possible en demeurant le plus rigoureuse possible parce que je sais que dans ce lieu aussi, nous avons des scientifiques. Est-ce qu'il y a des hommes ou des femmes qui, vous étudiez la science et vous aimez la science? Dis à ton voisin, ta voisine, tu devrais aimer ça plus qu'eux autres. Tu vas voir, ça devrait bien aller. Et aussi, ne vous inquiétez pas. Si vous avez, est-ce que ça va pour mon accent canadien? Vous me comprenez bien? Parce que j'ai dit hier, la première fois que je suis venue en France, on m'a dit, « Bonjour, madame, est-ce qu'on va vous traduire en français? » Alors, ça va mieux depuis ce temps-là. Vous savez, on va parler de science et foi. Et est-ce que c'est possible de concilier la science et la foi? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ben au revoir, on s'en va au dîner, c'est terminé. On fait des blagues, vous êtes ouverts, mais vous savez, dans plusieurs milliers, je dis pas dans plusieurs endroits, on voit une certaine dichotomie, une opposition, voire un face-à-face entre les écrits bibliques et ce que les scientifiques, les découvertes scientifiques. Et lorsque je parle, est-il possible de concilier la science et la foi? Je vous dirais, est-il possible de concilier la foi et la science? Parce que d'un camp comme de l'autre, nous retrouvons de l'opposition, n'est-ce pas? Et vous savez, il y a beaucoup de préjugés lorsqu'on parle de science et foi. Albert Einstein a dit, il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Et juste avant de commencer, j'aimerais, si vous êtes croyant dans ce lieu ou non-croyant, que nous puissions mettre nos préjugés de côté, que nous puissions juste ouvrir notre esprit. Peut-être que nous avons vu ce sujet-là d'un certain angle, mais ce matin, pendant l'heure qui est devant nous, on puisse tourner un peu de quelques degrés et de voir qu'au contraire, et j'espère qu'à la fin d'ici une heure, vous avoir montré que c'est possible et plus que possible que de concilier science et foi, mais au contraire, la science ne met pas en doute en aucun cas le Dieu créateur. La science ne fait que, les découvertes scientifiques ne font que pointer vers ce grand Dieu créateur. Et plus on étudie, plus on comprend les mécanismes, plus on découvre que c'est impossible que nous soyons le fruit du hasard. Amen. Et vous savez, cette conférence-là, j'ai écrit un livre aussi sur ce sujet qui s'appelle « Est-il possible? » Et cette conférence et ce livre a été basé parce que durant toutes mes études universitaires, beaucoup, quand j'étais sur les bancs d'école, beaucoup, on parlait de théorie d'évolution, on parlait du Big Bang, on parlait des années-lumière, des choses comme ça. Et on mettait toujours de côté la foi et encore plus, on disait que la foi, c'était pour les faibles, les simples d'esprit. Et pour moi, ça résonnait aucunement dans mon cœur parce que j'avais une foi profonde et je me suis dit, c'est impossible que la science ne prouve pas la création de Dieu, le Dieu créateur. Et il y a un article de journal en 2013 qui est sorti à Montréal, qui est un journal sérieux, qui s'appelle le journal La Presse, et c'était titré « Les croyants moins intelligents que les athées ». Ça génère pas quelque chose en vous, ça? Tu peux dire à ton voisin, ta voisine, il parle pas de toi, là. Moi, j'étais profondément choquée, voire même outrée. Premièrement, parce qu'on dit les croyants. Si vous mettiez toute autre dénomination, ça aurait soulevé un tollé. Et pourtant, sur Montréal, personne n'a réagi à un titre pareil. Et vous savez, vous connaissez, c'est un Français, Michel Onfray, qui est un philosophe, qui est un défendant de la pensée athéiste, a dit « Mieux vaut la foi qui apporte la tranquillité d'esprit que la rationalité qui mène à l'inquiétude, même si le prix à payer est celui de l'infantilisme mental perpétuel. » Là, au moins, dites-moi que ça vous choque. C'est vrai qu'il y a un loup en dedans de nous. Et j'étais outrée parce que c'est de la désinformation. Et souvent, en fait, on côtoie des gens et on parle de notre foi. Et les gens vont dire, la foi, c'est pour les simples d'esprit, c'est une béquille. Et pourtant, à travers l'histoire, nos plus grands scientifiques étaient des hommes de foi. Étaient des hommes qui n'ont eu aucun problème à concilier leur foi et leur grande connaissance scientifique. Par exemple, Blaise Pascal, un des plus grands mathématiciens, était un homme de foi. Grégory Mendel, qui était le père de la génétique, un homme de foi. Robert Boyle, le père de la chimie moderne, était aussi un homme de foi. Et je peux vous en nommer Isaac Newton, la pomme, ça vous dit quelque chose? Grand physicien, mathématicien et astronome. Louis Pasteur, le plus grand bactériologiste, était un homme de foi. Et là, je vais vous surprendre peut-être un peu. Si je vous dis Charles Darwin. Charles Darwin, je ne vous dirai pas qu'il était un homme de foi. Par contre, Charles Darwin ne s'est jamais déclaré athée. Il s'est déclaré agnostique. Et lui, dans son cœur, il nous dit, je ne crois pas en Dieu, mais je ne peux pas en nier l'existence. Il a dit, dans mes fluctuations les plus extrêmes, je n'ai jamais été athée, et ça c'est dans son livre, je n'ai jamais été athée au point de nier l'existence de Dieu. Le docteur Francis Crick, qui est le co-découvreur de la structure en hélice de l'ADN, qui a reçu le prix Nobel de médecine 1962, était aussi un croyant. Et là vous allez me dire, ah, c'est des gens d'une certaine époque, quoi. Et pas si lointaine quand même, mais au 21e siècle, est-ce qu'il y a encore des scientifiques qui sont des croyants? Vous savez, un des plus grands scientifiques du 21e siècle s'appelle le Dr. Francis Collins. Et c'est lui qui a été en charge des équipes pour le décodage du génome humain. Vous savez, il y avait des équipes partout à travers le monde. Et lui est un généticien célèbre. Et il est directeur de l'Institut national de santé à Bethesda. Il est le lauréat de la médaille de science. Il est membre de l'Académie nationale des sciences. On est loin de l'infantilisme mental. Êtes-vous d'accord qu'on parle de Francis? Il a été justement président et il a reçu une décoration de Barack Obama. Il a dit « Cet énorme progrès, et c'est Barack Obama qui a dit ça, cet énorme progrès de la connaissance scientifique a ouvert la porte à certains des plus grands mystères de la vie humaine et pourrait permettre de développer des traits, des moyens de guérir certaines des plus graves maladies. » Et les États-Unis honorent Francis Collins pour ses efforts visant à décrypter l'ADN humain et à améliorer la santé humaine. Alors, un des premiers préjugés, et comme croyants, nous devons marcher la tête haute parce que c'est vraiment un mythe de penser que tous les croyants sont des faibles d'esprit. Et la question ne devrait même pas se poser. Alors, soyons fiers d'être des gens qui ont la foi et il faut se lever au nom de Jésus. Vous savez, Francis Collins a dit dans son livre « Le langage de Dieu », « Pour moi, cela ne fait aucun doute. Dieu est le créateur de l'univers et a établi les lois naturelles qui le gouvernent. Le réglage fin, on va en parler, la beauté et l'ordre de la nature font état d'un concepteur divin. C'est ma compréhension des processus biologiques qui explique mon passage de l'athéisme au christianisme. » Ah, oui, on peut applaudir les scientifiques qui se tiennent pour leurs convictions. Albert Einstein, prix Nobel de physique 1921, a dit « La science ne peut être créée que par ceux qui aspirent profondément à la vérité et à la compréhension. » Toutefois, ce sentiment intrinsèque provient de la religion. La foi que le monde qui nous entoure peut être décrit de façon rationnelle, c'est-à-dire compréhensible par la raison, relève aussi de la religion. Il dit « Je ne peux pas imaginer un scientifique sans cette foi profonde. » La phrase suivante traduit bien la situation. « La science sans la religion est boiteuse et la religion sans la science est aveugle. » Est-il possible de concilier science et foi? Je crois que nous pouvons dire oui sans contredit. Si on parle de science et foi, il y a deux, vous savez, où on a beaucoup de discussions dans nos milieux et dans les universités, c'est lorsqu'on parle du commencement de l'univers et du commencement de la vie. Parce que vous savez, on a très peu de discussions entre croyants et non-croyants sur la gravité, sur toutes des mesures de physique ou de chimie ou du point de congélation. Vous êtes d'accord avec moi? Et pourquoi nous avons, et pourquoi il y a tant, on a opposé science et foi dans ces domaines-là? Parce que dans ces deux domaines de recherche, l'origine de l'univers, qui les scientifiques expliquent ça par la théorie du Big Bang, et l'origine de la vie, la théorie proposée et l'évolution, dans ces deux théories-là, ceci touche les origines de la vie, d'où nous venons. Depuis toute éternité, l'homme tente de connaître quelles sont ses origines. Comment sommes-nous apparus sur Terre? C'est un immense mystère que tous les scientifiques tentent de comprendre. Je n'aurai pas le temps ce matin, vous devinez, dans le temps qui m'est alloué, de parler de la théorie du Big Bang. Si ça vous intéresse, tout est dans le livre, mais le Big Bang, au contraire, vous savez, la théorie du Big Bang a été tellement controversée dans nos milieux de chrétiens, mais la première personne à avoir émis cette théorie-là était un croyant. Et lorsqu'il a proposé la théorie à des scientifiques qui étaient athées, ils ont dit « Nous refusons cette théorie-là parce qu'elle ressemble trop au modèle décrit dans la Bible. Au commencement, Dieu créa la terre informe et vide. » Et lorsqu'on parle de théorie du Big Bang, juste pour vous dire quelques petits mots, on parle que l'univers a été créé par une force bang créatrice, mais personne, aucun scientifique ne peut vous dire d'où vient cette force. Et pourtant, c'est tellement clair, Genèse 1:1. Tous les scientifiques sont d'accord qu'il y a eu un commencement, bang, mais personne ne sait d'où vient ce bang. Et pourtant, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa. C'est simple, la science. Est-ce que je vous réconcilie avec la science? Un des mythes qui est le plus répandu, c'est que la théorie de l'évolution, et vous l'avez sûrement entendu, combien croient ou avez entendu, avez entendu que la théorie de l'évolution est une théorie qui est prouvée dans son entière intégralité? OK, oui, peut-être que vous y pensez pas. Est-ce que vous avez déjà entendu ça dans les médias, à l'école? C'est la théorie la plus véhiculée pour exprimer l'apparition de la vie sur Terre. On est d'accord là-dessus? Et ça, c'est un des premiers, un deuxième préjugé, je devrais dire, qu'il faut qu'il soit brisé. Savez-vous que la théorie de l'évolution, elle n'est pas prouvée dans, par la communauté scientifique dans son entière, dans son intégralité. Et Richard Dawkins est un défenseur très, très médiatique de la pensée athéiste. Il est très, très médiatisé. Il a écrit des livres qui sont très... qui défend beaucoup cette pensée-là. Et sur une interview sur CNN, la chaîne CNN, il a dit « L'évolution est un fait. C'est un fait qui est établi de façon aussi sûre que n'importe quel autre fait que nous avons dans le domaine de la science. Il est tout à fait véridique d'affirmer que l'évidence en faveur de l'évolution est, et mâche pas ces mots, absolument, totalement écrasante. Personne, en y regardant de près, ne pourrait en douter, à moins d'être stupide. Donc, la seule option qui reste est que ceux qui en doutent soient ignorants. Et la plupart des gens qui ne croient pas en l'évolution sont effectivement ignorants. Il n'y a pas la moindre évidence en faveur du Dieu judéo-chrétien. Et c'est complètement, je vais essayer dans les quelques minutes de vous prouver que c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que moi, j'ai posé la question d'un autre angle. Et je ne veux pas vous choquer en partant, je veux juste que, suivez-moi dans ma réflexion et vous allez comprendre où je vais. Au lieu de dire que nous sommes contre la théorie de l'évolution, vous savez, avant d'être contre quelque chose, il faut savoir de quoi on parle. Et ça, j'ai vraiment été touchée parce que quand Pasteur Samuel et Dominique sont venus, ils ont apprécié. Et quand ils sont arrivés ici, le livre a été commandé à plusieurs exemplaires et ça a touché mon cœur parce que dans plusieurs églises, les croyants sont fermés à la base. Je suis contre la théorie d'évolution, je suis contre le Big Bang. Et si je disais pourquoi? Parce que le pasteur l'a dit. Et c'est beaucoup plus, c'est important d'être outillé pour pouvoir défendre notre foi et être crédible. Lorsque vous allez à la salle à café, partout au travail, avec vos enfants, moi j'ai des enfants de 19 et 16 ans, croyez-moi qu'ils m'ont posé des questions, et il faut être capable de dire pourquoi nous sommes contre. Et moi, sans vous choquer, je voudrais juste vous dire, on va poser la question d'un autre angle. Est-il possible que la théorie de l'évolution, là, écoutez-moi, suivez-moi, est-il possible que la théorie de l'évolution mette en lumière l'œuvre d'un être suprême? Ouh, la Canadienne! Où elle est allée pêcher ça, ces trucs-là? Mon idée, lorsque je discute avec des scientifiques, c'est de discuter science, d'aller sur le terrain, et je peux me défendre pendant un bon bout de temps. Et lorsqu'on arrive des discussions, on arrive, OK, si, je dis si, la théorie de l'évolution était vraie, comment on explique l'origine de la cellule, l'arrivée de la vie sur Terre? Là, je vous dis, on revient un petit peu en arrière. On va commencer par décrire, selon Darwin, qu'est-ce que la théorie de l'évolution selon Darwin? Et ça, c'est tiré directement du livre « L'origine des espèces ». Selon Darwin, toutes les espèces vivantes descendent d'un petit ancêtre d'êtres communs, peut-être même un seul. La seule variation d'une même espèce est aléatoire et la survie ou la disparition de chaque organisme dépend de la capacité à s'adapter à l'environnement selon un processus appelé sélection naturelle. Je vous ai dit, faites avec moi, là, détendez-vous comme ça, là. Il n'y a pas d'examen. Donnez un petit coup de coude, là, il n'y aura pas d'examen. Mais, Vous avez toutes une bonne note. Je vous fais passer immédiatement, mais si dans cette théorie-là, sans comprendre tous les détails, bien entendu, il y a deux points importants qu'il faut comprendre. Selon cette théorie-là, la variation et l'adaptation des espèces se fait par un processus qu'on appelle la sélection naturelle. Et le deuxième point, qui, selon moi, est le plus innovateur, et on va en parler, toutes les espèces vivantes descendent d'un ancêtre commun. Et vous savez, Charles Darwin n'a jamais dit que nous descendons du singe. Charles Darwin a dit pire. Nous descendons d'un être unicellulaire du genre protozoaire. Alors, bonjour, protozoaire dans cette salle. Le premier point, je pense que sans adhérer à la théorie de l'évolution, il faut quand même être honnête. Et je pense que lorsqu'on parle d'adaptation des espèces ou de micro-évolution, il faut admettre que les organismes se sont adaptés, les espèces se sont adaptées à leur environnement. Et c'est pour ça que certains environnements favorisent certaines espèces plutôt que d'autres. Vous êtes d'accord avec ça? Je vous choque pas. Ça va, là? On est d'accord? Et c'est pour ça que les ours polaires, on les retrouve plus sur des banquises blanches que dans les forêts canadiennes. Et les grizzlies sur la banquise, ils se feraient manger rapidement. C'est pour ça aussi que même quand on parle de la taille des individus, les individus sont plus grands aujourd'hui qu'ils étaient dans le passé. C'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai juste oublié d'évoluer. Ils m'ont oublié dans le processus de sélection naturelle. Mais et là-dessus, je pense que ça, c'est d'en discuter. Je pense qu'on est d'accord sur ce point-là de la théorie de l'évolution. Par contre, le point moi qui m'interpelle, c'est d'où cette première cellule tire-t-elle son origine? Comment a-t-elle été créée? Et vous savez, moi, ma spécialité, pendant 12 ans, j'ai étudié 12 ans, vous allez dire que je n'étais pas vite à comprendre, là, mais pendant 12 ans, j'ai travaillé sur tout au long de mes études, mais la dernière partie de mon doctorat, sur les 5 dernières années, sur une seule cellule. Moi, je travaillais sur les cellules du foie, les cellules hépatiques, et j'essayais de comprendre un seul mécanisme d'action qui s'appelle l'apoptose, la mort cellulaire. Et j'ai été fascinée parce que lorsqu'on étudie ce mécanisme-là, on s'aperçoit que nos cellules sont programmées pour s'éliminer lorsqu'ils font face à une menace. Les cellules se suicident. Avouez que c'est fantastique. Quand ils voient qu'ils sont un danger pour l'organisme humain, ils s'éliminent. Et c'est pour ça que dans certaines formes de cancer, ce processus-là est atteint, est atténué, ce qui laisse progresser, proliférer, les cellules cancéreuses. Alors, pendant des années, juste sur ce simple mécanisme-là, c'est d'une complexité et c'est absolument fascinant. Et vous savez, lorsqu'on dit que quand Charles Darwin a dit que nous venons d'une seule cellule, pour vous remettre dans l'époque où il a écrit ces choses, une simple cellule à l'époque de Charles Darwin ne signifie pas la même chose qu'aujourd'hui. Parce qu'à cette époque-là, nous n'avions pas les outils d'analyse, les microscopes aussi performants. Donc, pour Charles Darwin, une simple cellule, c'était assez simple. Pour moi, en 2014, avec les connaissances que j'ai acquises, une simple cellule, c'est extrêmement compliqué. Et moi, je connais une goutte dans l'océan du mécanisme cellulaire. Alors, et vous savez, depuis les chercheurs en ce moment, vous savez, on envoie des sondes partout sur Mars. Savez-vous pourquoi la NASA envoie des sondes sur Mars ou des trucs comme ça? Pas pour chercher des petits bonhommes verts, là. Des petits martiens. Parce que les plus grands scientifiques, encore en 2014, cherchent d'où proviendrait la vie sur Terre. Ils cherchent de trouver une molécule de la vie, une cellule qui aurait survécu à quelque part sur une autre planète. Les plus grands scientifiques, ce qu'ils essaient de faire en ce moment, c'est d'essayer de synthétiser en laboratoire, par des réactions chimiques, des protéines, de l'ADN, des choses comme ça. Moi, mon fils, lorsqu'il était à l'école secondaire, tout jeune, il m'a dit, il y avait un cours de sciences, il dit, maman, aujourd'hui, j'ai créé de l'ADN. Ah, puis j'ai dit, bravo, chérie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de créer de l'ADN. Et c'est juste pour vous citer Mathieu Grousson, qui est un physicien, il contribue à la revue scientifique Science et Vie, et une revue de vulgarisation a dit, toute reconstitution opérée dans le creuset d'un quelconque laboratoire ne saurait prétendre reproduire avec certitude l'histoire singulière qui s'est effectivement déroulée. Voilà donc les scientifiques réduits à empiler les hypothèses au mieux insuffisantes, au pire contradictoires. Ils sont en train d'échafauder des récits qui, à défaut d'être vrais, pourront au moins être qualifiés de crédibles. Des récits qui, imbriqués les uns dans les autres, prennent la forme d'un pulse d'énigmes. Et c'est exactement là où on est. Lorsque, vous savez, je ne vous ferai pas un grand cours là-dessus, en date d'aujourd'hui, ce qui est encore enseigné à nos enfants à l'école, et on sait que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, mais la théorie enseignée, mes enfants qui ont été enseignés au Québec, c'était, on appelle ça l'abiogénèse de la vie, l'apparition de la vie à partir du non-vivant jusqu'au vivant. Et la théorie qu'on parle, on appelle ça la soupe prébiotique. Est-ce que ça vous dit quelque chose, soupe prébiotique, ce matin? Pour certaines, vous êtes plutôt soupe de volaille, soupe de poisson. Soupe de poisson en France. Waouh, c'est tellement bon. Mais on va se tenir, on va s'entendre. La soupe prébiotique, c'est pour vous faire une histoire simple, c'est que l'origine de la vie, la première cellule serait apparue dans une mare qu'on dit chaude, où il y avait des sels ammoniaco-phosphoriques, toutes ces affaires-là, ça vous va, vous me suivez encore? Et ces sels-là inorganiques, avec le temps, et le hasard se serait rassemblé ensemble pour former des molécules de la vie, des protéines, de l'ADN, de l'ARN, qui sont des molécules extrêmement complexes, programmées, bien étudiées. Et ces molécules de la vie, avec le temps, et le hasard, se seraient mis ensemble pour former une cellule avec un noyau, avec toute l'information génétique pour développer un corps humain, avec toutes les membranes, avec tous les organites intracellulaires, si on voit la diapositive. Tout ça viendrait de sels ammoniacaux qui se sont réunis ensemble et par le hasard auraient donné, pouf, une cellule. Et on va se préparer pour la vidéo. On dit une cellule. Une cellule, vous allez voir, c'est tellement beau. Nous en avons des milliards et des milliards dans notre corps. Juste, il y en a de toutes les formes, des cellules des neurones, des cellules cardiaques, des cellules musculaires, toutes sortes de cellules. Et juste pour vous montrer comment la beauté de la chose, et pensez, en regardant ces cellules-là, que tout ceci serait le fruit du hasard. Et en plus, le passage du non-vivant au vivant, et je ne vous emmène pas juste au niveau cellulaire, comment c'est beau, mais pensez à toute l'organisation du corps, du cerveau, tout ça, et plus est l'âme dans ça. Comment l'âme serait apparue à partir de sel phosphorique et ammoniaque? On va regarder la vidéo. Laissez-moi vous emmener encore dans un voyage encore un petit peu plus petit que ces merveilleuses cellules. Dans les cellules, il y a des protéines. Les membranes, entre autres, sont constituées de protéines. Et certaines de ces protéines-là sont utilisées pour créer de l'énergie que nous avons. En ce moment, vous dépensez de l'énergie. Moi, j'en dépense un peu plus que vous autres, je dois vous avouer. Mais on est en train de créer de l'énergie, de l'ATP qu'on appelle. Et cette protéine-là qui est faite pour créer ces molécules-là, elle est conçue, elle s'apparente à un rotor, vous savez, dans les moteurs automobiles. Et c'est fascinant, on va se préparer pour la vidéo, comment cette protéine-là, comment elle a été dessinée et en comment elle sert. C'est pas important de comprendre les détails techniques, mais arrêtez-vous un instant pour penser que en ce moment, dans vos cellules, dans vos membranes cellulaires, vous avez jamais pensé souvent à vos membranes cellulaires, hein? Prenez quelques secondes pour réfléchir sur la membrane. Non, dans la membrane cellulaire, il y a une protéine qui est faite comme un rotor et qui vous donne, qui fabrique l'énergie pour vous. Et pensez-y après, comment ce rotor-là, si bien dessiné, designé, je devrais dire, comment a-t-il pu être créé ou apparaître suite au hasard dans la fameuse soupe prébiotique? On va regarder la vidéo. Ça, c'est une membrane cellulaire. Ce que vous voyez en jaune, c'est les protéines. C'est vraiment au niveau moléculaire, vos membranes ont l'air de ça.
It's been called one of the wonders of the molecular world, an amazing nanoscale machine. ATP synthase is a high-tech micromolecular power generator inside the cells of your body. It generates adenosine triphosphate, or ATP, an energy molecule that provides fuel that every one of your cells needs to function. Without this fuel, your cells will cease operation. And so will you. ATP synthase works like a rotary engine. The barrel-shaped rotator is composed of 10 to 15 protein parts called subunits. The rotator spins around, transmitting mechanical energy into the drive shaft of the machine, which helps make ATP. This drive shaft has a specially placed bump that opens and closes parts as the drive shaft spins around. This bump opens special protein subunits on the bottom of the machine. When the bottom subunits open, a spent energy molecule called adenosine diphosphate, or ADP, enters the machine. The mechanical motion causes the ADP to bind with an additional phosphate group, creating the ATP energy molecule. And the ATP drifts off into the cell, ready to power some biomechanical reaction. The ATP synthase machine has many parts we recognize from human-designed technology. A rotor, a stator, a drive shaft, and other basic components of a rotary engine. The ATP synthase is one of thousands of elegantly designed molecular machines inside your cells that make your life and all known life possible. ATP synthase. An example.
Êtes-vous d'accord qu'il est possible de concilier science et foi? Personnellement, lorsque je regarde ces découvertes scientifiques-là, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est tellement parfait, c'est tellement précis, c'est tellement petit que ça ne peut être que fait par quelqu'un de très grand, très puissant, très précis, très parfait. Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut, oui, on peut acclamer le parfait créateur, le puissant créateur? Jean-Claude Puente a dit « Le hasard fait bien les choses », dit le proverbe. C'est ce qu'on nous apprend quotidiennement, particulièrement en ce qui concerne l'existence de la vie. Mais réfléchissons. La cellule est organisée comme une usine de production en demeurant des plus efficaces. Peut-on imaginer un seul instant qu'une quelconque usine de production faite par les hommes laisse son destin entre les mains du hasard et continue d'exister? Il a fallu au contraire une réflexion importante pour créer une telle usine, l'organiser, maîtriser le processus de production en faisant appel à des techniques sophistiquées, régies par des lois physiques qu'il a fallu comprendre et des efforts réfléchis de tous les instants pour maintenir ce processus à son meilleur niveau, voire pour l'améliorer. La cellule réalise ses prouesses quotidiennement depuis des milliers d'années. Il faut à peine une seconde à une seule de nos cellules pour assembler une chaîne de 20 acides aminés et ce mécanisme fonctionne à chaque instant pour nos 100 000 milliards de cellules. Du sommet de notre tête à la plante de nos pieds, contrairement au mécanisme que nous pouvons inventer, celui-ci n'a pas besoin d'être amélioré, de se tenir à la fine pointe de la technologie pour la seule raison qu'il est déjà le plus performant. Et lorsqu'on parle de la cellule, et je vais aller rapidement, on parle aussi de l'ADN. Vous savez, cette complexité-là se retrouve dans notre ADN. Nous sommes codés, chacun d'entre nous, à moins que vous soyez des jumeaux, avons un ADN spécifique à nous. Et l'ADN est composé de 3 milliards de paires de bases. Cela représente 150 milliards d'atomes. La disparition d'une seule des bases de cette chaîne peut déclencher une maladie. L'ADN du noyau de toutes les cellules mises bout à bout au lieu d'être repliées et étroitement serrées dans le chromosome pourraient, écoutez bien, couvrir la distance Terre-Lune 300 000 fois dans votre noyau cellulaire. Imaginez, et cet ADN-là, elle est spécifique à vous, et cet ADN-là serait issu avec le temps et le temps et le temps et le hasard, pouf, comme ça. Quand même. Et ça dit, c'est-à-dire qu'il y a 1,2, la distance 300 000 fois Terre-Lune, c'est 1,2 fois 10 à la 11 km. Et si vous tapiez les lettres du génome humain à raison de 60 mots par minute durant 8 heures par jour, il vous faudrait 50 ans pour transcrire l'ADN. C'est de l'information, ça. Donne un petit coup, réveille ton voisin, ta voisine, là. Dis-y que ça prend 50 ans pour te transcrire. Pis si vous êtes marié, tu dis que ça va prendre 200 ans pour te comprendre vraiment, chérie. Les statistiques nous disent que la probabilité de formation spontanée par le hasard, spontanée d'une molécule d'ADN simple essentielle à l'apparition de la vie. Si on fait les calculs pour que ce soit le hasard, les calculs ont abouti à une probabilité si infime qu'elle est considérée comme mathématiquement impossible, soit 10 à la 600, ça veut dire, à la 6, oui, 600, 10 suivi de 600 zéros. C'est 10 avec 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ce qui milite si fortement contre l'idée du hasard, c'est que le caractère universel de la perfection. Le fait que partout on le regarde, à quelques échelles que ce soit, on trouve une élégance, une ingéniosité d'une qualité absolument transcendante. Et vous savez, il y a tout un... Je vais couper quelques citations pour aller à quelque part. Alors, c'est impossible, vous comprenez mon idée que le hasard, il est difficile de croire que nous sommes issus du hasard. Et vous avez bien saisi, je pense, que penser d'où vient l'origine de la vie, par l'apparition d'une simple cellule, c'est assez difficile à croire d'où elle vient, cette cellule-là. Et Albert Einstein a dit, « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. » Et moi, je ne suis pas nerveuse lorsqu'on parle de science et de foi, parce que Dieu, vous savez, il se prouve lui-même. Les perfections invisibles de Dieu se voient à l'œil nu et sa création. Et je me dis, lorsqu'on parle de théorie de l'évolution, soit parlons de sélection naturelle, soit parlons d'apparition, qu'on vient d'une cellule, d'où vient-elle? D'où vient-elle? Sinon que par l'action d'un grand Dieu créateur. Je vous ai baladé dans l'infiniment petit. Avec les quelques minutes qui restent, j'aimerais vous emmener dans l'infiniment grand. Êtes-vous capable d'en prendre encore un peu, là? Oui, ça vous va? C'est pas trop ardu? Non? Alors, on embarque dans notre navette spatiale et on s'en va dans l'univers, dans le grand univers. Albert Einstein a dit « L'idée que l'ordre et la précision de l'univers dans ses aspects innombrables soient le résultat d'un hasard aveugle est aussi crédible que si après l'explosion d'une imprimerie, tous les caractères retombaient par ordre dans l'ordre du dictionnaire. » Docteur Hugh Grass, un astrophysicien, a dit « Dans toutes mes conversations avec ceux qui sont engagés dans des recherches sur les caractéristiques de l'univers, dans toutes mes lectures d'articles et de livres sur le sujet, personne ne se pose à la conclusion que d'une manière ou d'une autre, le cosmos a été modelé pour être un habitat propice à la vie. » Il dit par la suite « Par nature, les astronomes tentent à être indépendants et iconoclastes si une occasion de désaccord se présente, ils la saisissent. Mais sur le sujet du réglage rigoureux du cosmos ou de son élaboration minutieuse, les preuves sont si écrasantes que j'attends toujours d'entendre une voix dissidente. » Et on parle de scientifiques en ce moment. Le docteur Alan Sandage, qui a été un des dauphins vous savez, docteur Hubble, qui ont donné le nom au fameux télescope, il a dit « Il me semble bien improbable qu'un tel ordre soit sorti du chaos. Il y a avoir un principe d'organisation pour moi. Dieu est un mystère, mais il est l'explication du miracle de l'existence. La raison pour laquelle il y a quelque chose plutôt que rien. » Si nous avons besoin d'un athée pour un débat, je vais au département de philosophie. Le concours du département de physique serait bien maigre. Romains chapitre 1, verset 20 nous dit « La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut le connaître à travers ce qu'il a fait. » Amen. Et ce qu'il a fait, tellement précis, dans l'infiniment petit, lorsqu'on lève les yeux vers le ciel, on constate, si nous, je ne sais pas, pour vous mettre un petit peu au parfum, est-ce que vous savez que nous sommes dans une galaxie? Oui, ça va. Est-ce que vous savez que nous sommes dans la galaxie qui s'appelle la Voie lactée, n'est-ce pas? Jusqu'à date, ça va bien, 10 sur 10, tout le monde, vous me suivez. Si tu mets la diapositive où on voit, voici, ça c'est notre galaxie, je vous présente la Voie lactée, et elle fait un diamètre, 9,25 fois 10 à la 17 kilomètres. Quand même, hein? Respectable. Et si vous mettez la prochaine diapositive, voici. Ça, c'est notre galaxie. Et je ne veux pas vous faire de la peine. Au milieu, ce que vous voyez brillant, là, c'est pas nous, ça. Pendant des années, on a cru que nous étions le centre de l'univers, mais pas du tout. Alors, donne un petit coup de coude encore, dis à ton voisin, t'es pas le centre, je veux pas te faire la peine, mais t'es pas le centre de l'univers ce matin. T'es pas du tout le centre de l'univers. Si vous allez un petit peu vers le bas, nous avons ici le soleil, notre système solaire, et nous sommes une poussière dans ce système solaire-là. Je veux pas vous faire de la peine, vous n'êtes que poussière, frères et sœurs. Et juste pour vous donner les proportions, j'essaie de mettre les équivalents Amérique du Nord avec Europe, mais si vous prenez l'Europe avec l'Afrique, ça va? Et j'ai pas de pièce d'un euro, mais si quelqu'un a une pièce d'un euro, par exemple, un euro, vous savez, c'est gros à peu près, comme ça, un euro? Nous, dans notre galaxie, la Voie lactée, c'est l'Europe et l'Afrique. Le système solaire dans lequel on fait partie, c'est un euro dans tout ça. Oui. Et ça, c'est le système solaire. Je ne veux pas vous faire de la peine. Nous sommes une planète dans le système solaire. Donc, sur l'euro, nous sommes gros comme une tête d'épingle. Donc, et nous, sur la planète Terre, nous sommes... Voilà. Donc, si vous regardez l'Europe, l'Afrique, la Terre est grosse comme une poussière. C'est assez fascinant. Et vous savez, lorsqu'on parle de galaxies, on parle de milliards, de milliards, de milliards, de milliards d'étoiles. Et lorsqu'on parle d'étoiles, une étoile que nous connaissons bien, le Soleil. Le Soleil, il dégage de la chaleur à 5500 degrés Celsius. Et le rayon, pour atteindre la Terre émis, ça prend 300 000, il fait 300 000 kilomètres par seconde. Et comme c'est décrit, un rayon de lumière n'a besoin que de 8 minutes pour couvrir la distance de 150 millions de kilomètres. C'est de la puissance, c'est chaud le soleil. Si tu mets la prochaine diapositive, les statistiques nous disent qu'il faudrait utiliser le produit, le PIB des États-Unis pendant 7 millions d'années pour qu'une compagnie d'électricité fasse fonctionner le soleil pendant une seconde. Ça, c'est puissant. Et le soleil, comme c'est écrit, est une étoile, on va se préparer pour la vidéo, parmi tant d'autres. Et lorsque moi, je réfléchis sur ça, c'est de la, le soleil, c'est une étoile qui émet de la puissance, de l'énergie. D'accord avec moi? Il y a des milliards d'étoiles qui dégagent de la puissance, de l'énergie. Savez-vous qu'il faut être plus puissant que ce que l'on crée? Imaginez la puissance qu'il s'apprend pour créer toutes ces étoiles-là. Le grand Dieu créateur, c'est écrit dans la parole qu'il vient en puissance à l'appel de son nom. Quand vous avez-vous passé à travers des difficultés, des tempêtes de la vie, levez les yeux vers le ciel, pensez à la puissance d'une seule étoile. Et Dieu est des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de fois plus puissant que ça. Alléluia! Oh, moi, ça me... Wouh! Alléluia! Et si vous ne me croyez pas, on va regarder cette courte vidéo. Je l'ai rajoutée parce que ça va. Et parce que moi, je suis facile. On pense que le soleil, c'est gros et c'est puissant. Mais lorsqu'on étudie, on s'aperçoit que le soleil, c'est une petite étoile dans la galaxie. On va remettre la vidéo.
Notre soleil est immense et le débit de son énergie est énorme. Le centre du soleil brûle à plus de 27 millions de degrés Fahrenheit. Il est à presque 150 millions de kilomètres de nous. Mais sa lumière est notre principale source d'énergie. L'énergie part du soleil à l'incroyable débit de 5 millions de tonnes de matière par seconde. Et ça de jour comme de nuit, année après année. Pour bien comprendre, avec l'aide de l'animation par ordinateur, voyageons avec la Terre vers le Soleil, à 100 fois la vitesse de la lumière. Maintenant, nous commençons à apprécier la magnitude de notre étoile. Plus d'un million de planètes Terre tiendraient dans le Soleil. Et pourtant, notre Soleil est de taille moyenne. De nombreuses étoiles dans notre galaxie le dépassent. Actarus est la quatrième étoile la plus brillante dans le ciel. À plus de 320 trillions de kilomètres, cette géante orange est visible à l'œil nu. En rapprochant notre Soleil tout près d'Actarus, on peut voir son immensité. Actarus est 100 fois plus brillante, avec un rayon 20 fois plus grand que celui du Soleil. Et pourtant, Actarus semble petite quand on la compare avec la supergéante Bételgeuse. Bételgeuse a un rayon 600 fois plus grand que le Soleil. De ton rougeâtre, cette étoile est 60 000 fois plus brillante que le Soleil. Mais pourtant, Bételgeuse n'est pas la plus grande étoile de notre galaxie. Plusieurs supergéantes rouges dans la Voie lactée sont encore plus grandes, certaines ayant un rayon 1500 fois plus grand que celui du Soleil.
Eh bien, une des choses dans la création qui, je crois, démontre vraiment le pouvoir de Dieu, c'est l'énergie qui dégage les étoiles. Comme le Soleil qui dégage plus d'énergie en une seconde qu'un milliard de grandes villes sur Terre. Et enfin, s'il y en avait, un milliard produirait en un an. Et on ne parle ici qu'une du seconde. Vous imaginez, bien sûr, il y a des étoiles qui sont encore plus puissantes que le Soleil. Imaginez toute cette énergie, toutes ces étoiles. Il y a des milliards d'étoiles dans la galaxie et des milliards d'étoiles dans d'autres galaxies. Et pourtant, la Bible décrit la création de toute cette énergie, tout ce pouvoir en une seule phrase. Et il fit aussi les étoiles.
Mmh. Et en terminant, vous avez été extraordinaire. Vraiment, c'est un plaisir de partager sur ce sujet avec vous. On va terminer avec la dernière vidéo. Et on va regarder, on parle d'immensité. Et je vous ai parlé un euro par rapport à tout ça. Nous, on est une poussière. Mais la dernière vidéo nous montre comment l'univers est grand. Et après la vidéo, je vais revenir pour vous parler comment notre Dieu est grand.
Commence ici, au cœur de la Venise de Galilée, sur la place Saint-Marc. L'univers est suffisamment grand pour que l'on puisse s'y perdre. Nous avons besoin de repères destinés à nous fournir une notion d'échelle. Le diamètre de ce cerceau d'acrobate est de 1 mètre. Les spectateurs forment un cercle 10 fois plus grand, d'un diamètre de 10 mètres. Le rapport d'agrandissement est de 10 puissance 1. Chaque nouveau cercle ou nouvelle étape de notre voyage correspond à un éloignement de Venise 10 fois supérieur, auquel correspond un champ de vision 10 fois plus large. Le cercle des 100 mètres embrasse la place Saint-Marc. Celui des 1000 mètres, autrement dit du kilomètre, englobe le cœur de la ville. Notre vitesse augmente. Le quatrième cercle, 10 puissance 4, annexe toutes les îles de Venise, l'Adriatique et le nord de l'Italie. Le sixième cercle incorpore l'Europe, du cœur de l'Allemagne jusqu'aux Balkans. Nous apercevons bientôt l'ensemble de la planète, notre port d'attache dans l'espace. Avec la huitième étape, 10 puissance 8, nous dépassons la portée des voyages humains en allant plus loin que la Lune. Peu que l'on se représente la trajectoire des 9 planètes en orbite autour du Soleil, avec la 13e étape, c'est tout le système solaire qui apparaît. Et à la 15e étape, 10 puissance 15, on peut voir que notre Soleil n'est qu'une étoile parmi tant d'autres. Le voyage se mesure désormais en années-lumière, la distance parcourue par la lumière en un an à 300 000 km/s. Nous dépassons seulement maintenant les étoiles les plus proches de la Terre, distantes de presque 5 années-lumière. À la vitesse d'un vaisseau spatial actuel, un voyage comme celui-ci durerait 100 000 ans. Tandis que nous traversons la nuit infinie, notre exploration nous entraîne loin du Soleil, à la lisière d'un immense disque d'étoiles qui dessine une spirale. La Voie lactée est une galaxie spirale, et notre Soleil, qui en fait partie, n'est qu'une étoile parmi une centaine de milliards d'autres. À cette échelle, 10 puissance 23, même la plus petite lumière qui scintille n'est pas une étoile, mais une galaxie, composée d'étoiles innombrables. Les astronomes se sont aperçus que les galaxies s'éloignent à toute vitesse les unes des autres, et que l'univers est en expansion.
Et Et lorsqu'on regarde cet grand univers avec toutes ces milliards de galaxies, milliards d'étoiles et milliards de galaxies, vous savez, on a envoyé, et je termine là-dessus, un télescope, vous savez, le télescope Hubble, et pour prendre des images. Et on a les images récentes qui sont apparues. On a découvert une nouvelle galaxie qui est à 31 millions d'années-lumière d'ici. Pouvez-vous imaginer? On appelle la galaxie du tourbillon. Et les images que la NASA a démontrées, c'est sur le site de la NASA, c'est qu'au plus loin de l'univers, où on peut aller saisir des images le plus loin de l'univers, au cœur de cette galaxie du tourbillon, les images ont montré, si on met la prochaine diapositive, la croix. Et bien sûr, c'est un effet d'optique. Et moi, je me disais, lorsque je réfléchis à la lumière de la parole de Dieu, de mes connaissances scientifiques, le plus loin que tu peux regarder avec toutes les perfections de l'univers et cette complexité, tu reviens toujours à la croix. Et Neil Armstrong, qui était le premier homme à marcher sur la Lune, lorsqu'il est revenu, il était dans la navette et il a mis son pouce comme ça. Il a caché la terre avec son pouce et il lui a dit, quand je dans la navette, je ne me suis pas senti grand. Au contraire, dans cet univers-là, je me suis senti petit. Et dans les psaumes, ça nous dit, psaume 8, verset 3 à 4, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Mais le plus grand miracle de la création, c'est que ce grand Dieu si puissant, il est un Dieu si personnel. Ce même grand Dieu-là, parce qu'il nous aimait, parce qu'il t'aimait, vous savez, la Bible dit qu'il connaît toutes les étoiles par leur nom, et il vous connaît par votre nom. Il connaît Raymond, il connaît Georges, il connaît Johanna, Samuel, Dominique, mettez votre nom. Ce grand Dieu-là qui connaît toutes les étoiles vous connaît par votre nom. Il est puissant et il est personnel, et parce qu'il nous aimait, il a envoyé ce qu'il avait de plus précieux, mourir sur la croix pour nous. Et dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, ça nous dit que le même Dieu qui tient l'univers dans la paume de sa main, pouvez-vous imaginer la main de Dieu, vous, quand vous avez vu l'univers? Ce même grand Dieu-là qui tient l'univers dans la paume de sa main, le verset tout de suite qui suit, ça nous dit, ce même Dieu-là prend sa brebis et la prend et la porte contre sa poitrine. Ce grand Dieu-là nous connaît personnellement. Ce grand Dieu-là connaît tes besoins. Il connaît ta destinée. Il connaît ce que tu traverses. Il te dit, toute cette puissance-là, elle est disponible pour toi. Tout cet amour-là est disponible pour toi. Et vous savez, comme scientifique, ce qui m'a le plus touchée dans ma recherche de Dieu, dans ma quête de connaissances scientifiques et de Dieu, bien sûr, la connaissance du grand Dieu créateur, toute cette perfection-là. Mais lorsque je traverse et que j'ai traversé les moments les plus difficiles de ma vie, ce grand Dieu créateur-là, j'ai ressenti sa présence dans mon cœur et m'accompagne sur le chemin de la vie. Un grand Dieu si puissant, si personnel. Alors, c'est le Dieu et c'est là que je voulais vous présenter à travers toute la science et les découvertes scientifiques ce matin. Vous avez été extraordinaire. Je vais inviter le pasteur Samuel pour conclure cette réunion.